France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
S'il fallait résumer 2005 et le référendum sur la Constitution européenne en une photo, c'est la une de Paris Match. François Hollande et Nicolas Sarkozy, alors à la tête de leurs partis respectifs, ensemble pour le oui à la Constitution. On entend beaucoup aujourd'hui que ce référendum rejeté, donc rappelons-le, à plus de 54%, puis rayé d'un trait de plume au fond pour ratifier le traité de Lisbonne 3 ans plus tard, mais on y reviendra, que cette affaire est l'événement fondateur de la vie politique qui est la nôtre aujourd'hui. La photo, au sens figuré cette fois, de la vie politique de 2025 serait le résultat du référendum de 2005, la fracture dont on voit encore les cicatrices aujourd'hui. Alors pourquoi ? D'abord, peut-être la première sortie des grands clivages politiques traditionnels de l'histoire récente. Elle est peut-être là, la fameuse photo de Paris Match, donc ni de droite ni de gauche. Est-ce que ça éveille un ou deux souvenirs actuels ? Et puis, si à l'époque la droite est restée à peu près en place, à l'exception de Nicolas Dupont-Aignan, la gauche s'est fissurée gravement. On verra jusqu'à quel point. Il y avait donc François Hollande du côté du oui, mais Laurent Fabius et Henri Emmanuelli du côté du non. Il y avait Jean-Luc Mélenchon surtout, qui 3 ans plus tard claquera la porte du PS pour créer le parti de gauche, devenu le Front de Gauche, et puis la France Insoumise. Côté Front National, à l'époque, Front National de l'époque, l'expression UMPS de Marine Le Pen avait trouvé là tout son sens. L'épisode 2005, ce sont des ouvriers qui avaient dit non le plus massivement avec 76% des suffrages. Acte la rupture de confiance entre les dirigeants et leur peuple. En tout cas, c'est comme ça que l'épisode est rappelé régulièrement par ceux qui en parlent, qui parlent aussi de défiance désormais vis-à-vis du politique, qui parlent aussi de ceux qui ne croient plus au vote et donc s'abstiennent désormais. Est-ce qu'on peut dire que c'est après cette date qu'on commence à voir pousser des fleurs de rond-point qui, des années plus tard, donneront les gilets jaunes? Vivons-nous encore avec dans le dos l'ombre du référendum de 2005? C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Xavier, c'est vous le premier et vous êtes le bienvenu, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, eh ben, vous avez parfaitement résumé mon état d'esprit. On a été trahis. On a été trahis et depuis 2005, maintenant, à chaque fois que, enfin personnellement, je glisse un bulletin dans l'urne, j'ai cette trahison en tête. Je me dis, oui, effectivement, il affiche un programme, mais demain, il va me trahir, il ne l'appliquera pas, ou c'est ça. Ça me rappelle la célèbre blague de Coluche, quoi. Attendez, revenez, vous n'avez pas tout compris, on va le refaire. Mais non, on n'avait pas l'intention de le refaire. Hein, on est un peuple adulte, on n'est pas des enfants, et voilà.
Hein. Mais vous votez toujours, Xavier, quand même?
Oui, moi je vote toujours, mais après je vous dirai pas ce que je vote. Ouais. Peut-être que mes enveloppes sont vides. Hein, voilà. Non, je continue à faire un devoir de citoyen, parce que je considère que c'est très important, en particulier au municipal, où là j'ai une pleine confiance dans nos édiles, mais je suis désolé, oui, je vote toujours, mais non, voilà quoi.
Merci beaucoup Xavier, merci pour ce démarrage, le démarrage de cette émission jusqu'à 20h pour en discuter. Autour de la table, il y a Bruno Cotresse, bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Chercheur au CNRS, au CEVIPOF, vous êtes enseignant aussi à Sciences Po Paris. Il y a Thomas Legrand à ses côtés, bonsoir Thomas.
Bonsoir Fabien.
Éditorialiste à Libé, enquête de politique sur France Inter, c'est vous aussi. On mettra des ismes si vous voulez dans cette émission pour vous faire plaisir.
J'aime les ismes.
Oui, je vois bien. Anne-Charlène Bézina, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes constitutionnaliste, vous êtes maître de conférence à Sciences Po. Puis rappel, il y a un podcast, il y a aussi un livre aux arènes et chez France Inter avec Thomas Negaroff qui s'appelle 5e République, anatomie d'un régime en crise. Bah, je vais commencer avec vous Thomas Legrand, ce que nous raconte Xavier, ce qu'il nous dit, les mots qu'il emploie surtout. Trahi, il dit à ce moment-là. Donc à chaque fois, on l'a en tête comme un petit nuage qui trotte au-dessus de la tête des électeurs.
Oui.
Est-ce qu'il est, j'allais dire, est-ce qu'on le met sous verre parce qu'il est très représentatif en fait?
Il est très représentatif et il est ressenti comme tel, donc c'est une vérité politique qui existe et qui nous plombe, qui plombe la vie politique française depuis 2005. Mais le gros problème de ça, c'est que Xavier nous dit « je suis trahi parce que mon vote n'a pas été respecté ». Il a voté non et il n'a pas été respecté parce que 3 ans après, la Constitution était adoptée à Lisbonne. Le problème, c'est que c'est pas de sa faute, hein, mais qu'aurait été de respecter son vote? C'est-à-dire son nom à lui, imaginons, Xavier nous a pas dit pour qui voter, imaginons que ça soit le vote, le nom de gauche, donc un nom social, voilà. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour être appliqué? Ce nom disait quel oui le nom de gauche et le nom de droite souverainiste, voire nationaliste, ne pouvaient pas fournir un oui. Donc la question était mal posée. Un référendum, je ne sais pas moi, celui de 62 sur l'indépendance de l'Algérie, est-ce que vous ratifiez les accords d'Évian, auquel cas l'Algérie est indépendante? Et si ce n'est pas le cas, eh ben on remet le travail sur la 5e République en 58. Est-ce que vous acceptez le référendum, la 5e République telle que proposée? Oui, alors on passe à la 5e République. Si c'est non, on reste à la 4e. Donc là, il n'y avait pas de solution. Donc c'est un petit peu, j'ai envie de dire à Xavier, c'est compliqué. Parce qu'en plus, il nous dit, moi j'ai confiance dans nos édiles pour les mairies.
D'ailleurs.
Pour les mairies,
il va s'en réfléchir.
Il se trouve que toutes les mairies, tous les départements, toutes les régions sont dirigées par des socialistes, par des LR, aucun par les insoumis, aucune par les insoumis, par le Rassemblement national ou par les macronistes. C'est-à-dire que tous ceux qui ont voulu, qui ont surfé sur le fait que le nom n'ait pas été respecté et qu'il y ait une crise politique, finalement, ils n'ont jamais réussi à conquérir. Donc c'est assez compliqué. Moi, je trouve que cette trahison, elle est ressentie, mais le nom n'aurait pas pu être respecté.
Mais au fond, peut-être que la trahison, elle date d'avant, en fait, si je puis dire.
Oui, elle est ailleurs.
La trahison, c'est d'aller sur un référendum alors qu'on sait bien qu'il ne peut pas y avoir de plan B,
Il y a un peu cela, et on a cité Coluche, j'aime beaucoup aussi cette citation qui consistait à dire le vote ne sert à rien, sinon ça ferait longtemps qu'il serait interdit. Parce que c'est ça, en fait, la trahison des élites qu'on connaît par Bourdieu, par évidemment beaucoup d'autres scientifiques. C'est, est-ce qu'il y a un moment dans le dogme représentatif, qu'on a choisi en 1789 pour les raisons qu'on connaît, où la trahison n'est pas très facilement ressentie par celui qui est représenté? Et en fait, c'est ça qui est important, c'est comment est-ce qu'on a des représentants qui nous font sentir cette confiance. Parce que la Constitution, que le traité européen ait été adopté ou non, juridiquement d'ailleurs non, puisque c'est vraiment nous, les Français, qui avons arrêté le processus constitutionnel de 2005, et le traité de Lisbonne n'est pas réellement le traité portant Constitution. Tout le projet constitutionnel, qui était justement compris comme une forme d'entrée dans la fédération, a été abandonné.
Oui, il y a une version
en quelque sorte à ce nom.
J'allais dire expurgé,
c'était simplifié d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et en réalité, il était nécessaire par rapport aux élargissements, c'est-à-dire que on était dans les dernières années où on pouvait appliquer, eu égard notamment au nombre de députés européens, etc. Bon, mais ça signifie quand même quelque chose. Ça signifie qu'il y a un sentiment de trahison qui nous prouve que on n'a plus confiance dans nos élus nationaux. Et je dis bien nationaux parce que cette grande fracture avec les élus locaux, elle existe dans l'électorat
et elle existe. Les partis, le PS et LR. Reste au niveau local, c'est ça qui est amusant.
On a la vieille politique qui n'a pas vécu le dépassement, le populisme, et qui est vraiment la droite et la gauche traditionnelle dans des édiles locales, et qui pourtant n'ont pas la même ambiance politique qu'au niveau national, parce qu'on a confiance dans leurs responsabilités, parce qu'on voit leurs résultats, et au fond on se demande si notre vrai drame c'est pas celui de ne pas arriver à susciter à nouveau la confiance dans l'élection, et de ne pas savoir peut-être mieux partager le pouvoir aussi avec d'autres élus, arriver à susciter la confiance dans tout ça, je crois.
Mais Bruno de Cotresse, est-ce que c'est de cette période-là que date le fait qu'on a vraiment formulé la rupture entre les dirigeants et ses politiques, qu'on a formulé en gros le peuple contre les élites, etc. Donc est-ce que le marqueur, en fait, c'est qu'on a dit des mots et des choses qu'on n'avait pas dit avant cette période-là, et qu'aujourd'hui on est en plein dedans, ou est-ce que en fait on a besoin de ce marqueur-là qui nous situe dans le temps, mais ça fait bien longtemps qu'on y était aussi?
Je pense que c'est plutôt cette interprétation que j'aurais, au fond, la rupture de faisceau entre l'opinion publique et ce qu'on appelle le monde de la politique, la classe politique, parfois on dit. Cette rupture, elle date de bien avant. On peut la dater quelque part, au vu des données d'enquête dont on dispose, quelque part entre le milieu fin des années 80 et le début des années 1990. C'est là où quelque chose de très important se passe. On a beaucoup de témoins, nous, empiriques, qu'on suit, des indicateurs d'opinion, qu'on suit. On voit que quelque chose se passe à ce moment-là, et qui peut-être nous parle d'un sujet beaucoup plus large que la question européenne. C'est à partir de cette période que nous nous mettons à voir concrètement, dans nos vies concrètes, les effets de ce qu'on va appeler plus tard la mondialisation, c'est-à-dire on se met à consommer des objets, à voir des objets qui ont été fabriqués à l'autre bout du monde, et progressivement dans les opinions s'installe l'idée que le politique au niveau national n'a peut-être plus complètement le contrôle, qu'il prétend toujours être celui qui régule, qui met la société en bon ordre.
Moins il l'a, plus voilà, il affirme qu'il l'a, voilà, il mais, fait élire, là, il voilà, se
mais,
fait élire là
mais la rupture de faisceau date d'avant. Alors,
mais du coup, est-ce que ça veut dire que ceux qui sont...
Ça prend une importance encore plus forte.
Exactement, mais est-ce que ça veut dire que ceux qui sont paralysés au fond en 2005, c'est pas tant les électeurs qui aujourd'hui, effectivement, peuvent dire qu'ils ont été trahis comme notre auditeur précédemment, mais c'est surtout les politiques qui veulent pas remettre la main sur le fourneau pour voir si c'est chaud, donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu de référendum depuis 20 ans. En fait, donc est-ce que finalement le vrai symptôme, c'est chez les politiques qu'il est ?
Un peu, c'est vrai qu'on n'a pas eu de nouveau référendum depuis cette époque, notamment sur les questions européennes. Mmh. Or, les questions européennes continuent de faire débat. Le débat n'a pas été soldé le 29 mai 2005. La question européenne continue de faire débat, les modalités de l'intégration européenne pour qui, avec qui, combien, pour faire quoi, ouais. Ça fait l'objet toujours de beaucoup de débats dans l'opinion. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'une des raisons pour lesquelles les politiques essayent de ne pas s'y remettre, on voit que l'opinion publique française, globalement, elle est plutôt assez... tiède, voire tiède négative hein, sur davantage d'intégration européenne, et en particulier sur un sujet dont personne ne parle dans le débat public, alors même qu'il va arriver, c'est la question de l'élargissement.
Mm-hmm. Charlène Bézina qui voulait prendre la parole et on retourne au standard.
Sur les référendums, évidemment que 2005 est un traumatisme, parce qu'en fait on a deux éléments cumulés dans le référendum de 2005, c'est-à-dire que il y a la malédiction de 1969 qui ne s'établit plus, c'est-à-dire qu'on voit que c'est un président de la République qui reste alors qu'il a fait campagne. Et donc un président de la République désavoué au fond qui... continue d'occuper son siège. Et donc là il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la rupture de la confiance.
Un gaulliste,
et qui en plus avait prétendu plusieurs fois qu'il était dans ce dogme du gaullisme. Donc il y a ça. Et je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est qu'on a eu peur du non. Et finalement, quand on parle aux Suisses de cette paralysie française, ils nous disent, mais c'est parce qu'en fait, on a l'impression qu'en France,
on
le
a peur
oui
des gens.
Veut dire plus que oui, et le non veut dire plus que non. Vous faites partir vos élites, etc. Donc il faudrait arriver à ce que le référendum quotidien me semble être un petit peu moins peut-être sacralisé et plus
dédramatiser le
référendum. Pourquoi pas même avec des sujets qu'on qualifie aujourd'hui de secondaires ? Pourquoi faudrait-il des sujets régaliens ? Pourquoi faudrait-il des sujets forcément européens ou internationaux pour se prononcer ? Je rappelle l'article 11 qui nous dit « Toute réforme économique, sociale ou environnementale ». Donc même des sujets qu'on considère comme secondaires mériteraient à mon avis d'être tranchés par référendum aujourd'hui.
Restons sur la période, sur 2005. On ira plus loin évidemment après, mais je voudrais qu'on écoute Marc. Bonsoir Marc.
Oui, bonsoir. Le téléphone sonne et vous invitez. Moi, je suis un peu perplexe et même 20 ans après, je ne comprends toujours pas pourquoi c'est toujours un sujet aussi sensible. Moi, j'ai voté et j'avais voté. Je me rappelle un peu quand même des débats assez très forts qui avaient lieu à l'époque. Effectivement, il y avait les images catastrophiques. Enfin, chaque camp indiquait quelque chose pour effrayer. Ce serait le chaos si vous choisiez telle option. En tout cas, moi, j'avais voté pour le oui, pensant que, malgré tout, j'avais bien épluché le texte, c'était quand même pas assez quand même fourni. C'était pas très agréable, mais il y avait certains points que j'avais entourés qui me plaisaient pas du tout. Et j'avais hésité, mais malgré tout, je me suis dit, malgré ça, j'avais quand même voté pour le oui, parce que je me disais qu'on va peut-être quand même pouvoir l'amender ultérieurement. Je pense à ça, parce que la Constitution française, bon, on l'a modifiée, on a rajouté, on a fait des rajouts, et je pensais à la même chose quand même pour l'Europe. Je pensais que les peuples européens, dans leur grande sagesse, sauraient la rendre moins commerciale, moins financière et plus sociale, par petits bouts, évidemment. Mais et en plus de ça, je comprends tout à tellement qu'il y en a qui se sentent trahis, mais cependant, je trouve que on n'a pas eu vraiment de constitution. On a contourné. Ça, je peux comprendre, soit mécontent qu'il y ait eu un contournement, mais on n'a pas eu de constitution. On a eu un traité. C'est pas la même chose. Je suis désolé, c'est pas la même chose. C'est pour ça que je reste perplexe quant à ce sentiment de trahison, mais je respecte quand même. Mais tout, je trouve que effectivement, on devrait être plus clair, plus net dans tous ces grands enjeux et essayer malgré tout dans les référendums éviter d'en faire des pour ou contre une personne.
Et alors, ça,
malheureusement, on ne peut toujours pas le faire.
On n'y est pas, Marc. Merci beaucoup. Mais sur la difficulté, Bruno Cotterêts, c'est à ce moment-là aussi qu'on s'est mis à regarder l'Europe hyper technocratique, où au fond, honnêtement, personne ne l'avait lu ce traité, enfin, pour dire les choses très clairement, ou très peu de gens. Et d'ailleurs, Anne-Charlène Bézina le rappelait, la signature en 2008, c'était une... pardon, je vais le dire comme ça, c'était une version digest, pardon, madame la constitutionnaliste, mais c'était un peu une version digest qui était nettement plus compréhensible. Il y a eu aussi tout ça, et on a l'impression qu'on n'a pas tellement progressé là-dessus, parce que quand on reparle de l'Europe aujourd'hui, on parle encore de son côté technocratique.
Alors, j'aime bien le témoignage de Marc, parce qu'il permet de souligner d'abord un premier point, de rappeler qu'en 2005, il y a eu des avalanches de publications et de livres pour expliquer la Constitution. Je me rappelle qu'il y avait même la Constitution expliquée aux enfants. On pouvait acheter le traité constitutionnel et une version commentée en faisant ses courses au supermarché. Et beaucoup de ces livres ont été de vrais succès. De vrais succès. Les éditeurs ont réédité. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait une forte demande du public, comme Marc, qui avait envie d'aller annoter. Parce que le symbole d'une constitution dans notre univers politique français, c'est un symbole qui est extrêmement fort. Donc, il faut quand même rappeler qu'il y a eu un vrai débat. Le non ne l'emporte pas à l'issue d'une mauvaise campagne où on n'a pas des éléments d'information. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup d'éléments d'information. Et deuxième point, pourquoi c'est si fort, les questions européennes? Parce qu'elles parlent d'un point capital, la question de la souveraineté. La question de la souveraineté nationale, la question aussi, il y a à la fois cette dimension très symbolique de la souveraineté, qui était déjà très présente dans le référendum sur Maastricht, parce que c'est délégué un des pouvoirs les plus importants de l'État-nation, qui était celui d'unifier notre monnaie. Donc, symboliquement très fort, aussi parce que nous venons d'une histoire très traumatique et très traumatisante, l'histoire de l'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qu'on ne peut pas déconnecter le rapport de la France à l'intégration européenne, à la fois de l'après-guerre et peut-être aussi des années 1960, qui est un moment aussi d'autre rupture pour la France. Et donc, je pense que c'est pour ça que ça prenait une telle résonance.
Thomas ?
Oui, la question de la souveraineté, c'est très important, parce qu'en fait, si on regarde nos grands problèmes, les grands problèmes auxquels nous avons à faire face, l'environnement, la mondialisation économique, eh bien, ils peuvent se régler de façon très locale et de façon assez globale. Mais la circonscription nationale de nos nations, de nos États-nations qui ont été créés au 19e siècle, de la taille de nos nations entre 80 millions d'habitants, les nations européennes, finalement, elles ne sont plus adaptées pour résoudre ces problèmes. Et pourtant, c'est la circonscription de nos souverainetés. On a l'impression, nos représentants sont nationaux. Et ils perdent du pouvoir parce que, évidemment, les multinationales, la financiarisation de l'économie, tous les impératifs sont maintenant internationaux. Donc, il faudrait élargir le champ des travaux, c'est-à-dire il faudrait avoir un empire européen, mais notre souveraineté reste nationale. Et plus les hommes politiques français, franco-français, perdent le pouvoir et non plus les manettes. Hein, quand Général de Gaulle voulait faire une ligne de train de Paris à Bordeaux, il tirait un trait, et puis voilà, on faisait la ligne de train. Maintenant, il faut des appels d'offres, il y a des ZAD, il y a les zones humides, etc. On ne peut plus faire ce qu'on veut, et c'est bien. Mais maintenant, il faudrait presque une opinion publique européenne. Et donc, on est en décalage. Et quand les hommes politiques perdent ce pouvoir, ils rajoutent, ils disent « moi, je pourrais ». C'est-à-dire, Nicolas Sarkozy a dit « moi, je pourrais parce que je suis énergique ». Hollande a dit « moi, je pourrais parce que je suis normal ». Et comme ils ne peuvent pas, on se dirige vers une solution autoritaire et nationale qui sera, évidemment, de mon point de vue, complètement contre-indiqué par rapport à la réalité du problème qui est local et global.
Essayons de comprendre pourquoi on en est où nous en sommes aujourd'hui par rapport à ce que 2005 nous a pris. D'abord, je pense à cette fameuse photo. Je disais en plaisantant tout à l'heure en introduction que le ni droite ni gauche avait été inventé à ce moment-là. Est-ce que la première rupture, effectivement, de quelque chose qui était tellement clair dans notre vie politique, la droite, la gauche, quelque chose de très bipartisan par ailleurs encore à ce moment-là, même si on est après 2002, ça ne nous a pas échappé. Est-ce que le premier signe de ça, de cet éclairage éclatement, je vous vois faire oui avec la tête, Bruno Cotterêts, c'est là. Est-ce que là, on met le marqueur ou pas?
Oui, on voit apparaître effectivement sur les questions européennes à quel point elles vont aller cliver à l'intérieur des familles politiques, à l'intérieur de la gauche, à l'intérieur de la droite. Et c'est sans aucun doute quelque chose de cette nature qui s'est passé. N'oublions pas que 3 ans avant, Jean-Marie Le Pen se qualifie au second tour de l'élection présidentielle, qui est déjà un témoin lumineux qui s'allume pour dire que la bipolarité gauche-droite est en train d'être fortement remise en cause et perturbée. Et évidemment, 2005, c'est aussi de ça dont ça parle.
Est-ce qu'on peut dire, Anne-Gerline Bézina, est-ce qu'on peut se demander si... Est-ce qu'il y aurait une France insoumise telle qu'elle est aujourd'hui, par exemple, s'il n'y avait pas eu 2005, puisque je le disais, 3 ans après, Mélenchon claque la porte du PS, donc c'est le Front de Gauche d'abord, le Parti de Gauche après, ou l'inverse, peu importe, et la France insoumise derrière. Mais est-ce que ça, c'était en germe, au fond, ou est-ce que là aussi, le marqueur, il est exactement ici? Et peut-être que cette politique, cette France de 2025, politique que nous avons aujourd'hui, ne serait pas la même sans cet épisode-là.
Je vais vous répondre en plusieurs temps, parce que j'ai le sentiment qu'on met beaucoup de choses sur 2005 qu'on a en réalité négligé de 92. Maastricht a été, je pense, l'élément déclencheur de l'Union européenne, et juridiquement, c'est d'ailleurs la vérité, de l'Union européenne et non plus des communautés, donc de l'Union comme elle l'est aujourd'hui. Et elle avait déjà eu cet effet sismique. On se rappelle que dans les familles politiques, déjà sur Maastricht, les consignes de vote sont ridicules, étant donné que personne n'est complètement sur la même ligne que l'autre. Et au fond, c'est peut-être une faculté qu'on avait encore dans les années 90 à faire des familles politiques très multiculturelles. C'est-à-dire que vous prenez le PS de l'époque Mitterrand, bon, on voit que ça tire un peu sur la gauche, ça tire un peu sur les côtés, oui, la majorité relative... Voilà, on est bien d'accord. La majorité relative de Michel Rocard est d'ailleurs assez confortable par rapport à celle d'Elisabeth Borne, étant donné qu'il peut aller tirer un peu sur les deux côtés. Et c'est quelque chose qu'on a perdu. C'est-à-dire que les familles politiques aujourd'hui ne sont plus des familles de réunion. L'UMP, par exemple, était un peu cette dernière idée qu'on pouvait faire de grandes familles avec beaucoup de sous-familles plus souverainistes, d'autres moins à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est un peu en train de se perdre.
Vous remarquerez que les 3 grandes familles qui monopolisent de façon sonore le débat national, c'est-à-dire le RN, les Insoumis et les macronistes, eux, sont cohérents par rapport à 2005, même s'ils n'existaient pas en 2005. Les macronistes, c'est que des ouistes. Le RN et les insoumis, c'est que des nonistes.
Mais précisément parce qu'à mon avis, ça s'est restructuré à ce moment-là, mais peut-être à mon avis un petit peu avant, c'est-à-dire qu'il y a eu non seulement le choc de 2005, mais en plus cette incapacité des partis politiques à faire de la famille. Et on a donc resitué beaucoup de choses par rapport à cette Union européenne. J'ai un tout petit mot de ce partage des souverainetés. Souveraineté européenne, souveraineté nationale. Ça, c'est le mot d'Emmanuel Macron qui dit toujours on peut être dans une souveraineté nationale et une souveraineté européenne. C'est vrai. Même si, à mon sens, je ne pense pas qu'on devrait employer ce terme de souveraineté européenne. Parce que le mot de souveraineté, comme le mot de constitution, ils ont des charges symboliques très fortes qui sont associées à l'État. Et au fond, quand on fait de l'Union européenne un élément démocratique, il faut le faire de manière opportuniste. Et c'est comme ça qu'on parle aux Français. C'est-à-dire, n'oublions pas qu'on a des intérêts européens, mais qui n'ont rien à voir avec les intérêts nationaux. Et je pense que c'est ce débat-là qu'on n'a pas su faire en 2005.
On est en train, au téléphone sonne, de voir jusqu'à quel point la vie politique française de 2025 découle du référendum de 2005. Nous sommes avec Bruno Cotterêts, avec Thomas Legrand et avec Anne-Charline Bézina, et aussi avec vous, Olivier, bonsoir.
Bonsoir, merci de me donner la parole. J'ai un sentiment et question. Mon sentiment, c'est qu'effectivement 2005 et quel que soit par ailleurs mon vote était une sorte de déni de démocratie qui est poursuivi alors plus récemment un grand manifestation de gilets. Et là, pour vous dire, j'ai jamais porté de gilets jaunes. Je reconnais que ça n'a rien donné. Les doléances, comme j'ai entendu, sont parties en
fumée. On vous entend plus. Pardon, excusez-moi, Olivier. Soit vous bougez un petit peu et on poursuit, soit on vous rappelle parce que vous hachez terriblement. Allez-y pour voir.
Est-ce que vous m'entendez ?
Un peu mieux, allez-y, essayez. On en était à gilets jaunes.
Voilà, les gilets jaunes et les cahiers de doléances qui n'ont absolument rien donné. Comme je disais, ils sont partis en fumée avec la flèche de Notre-Dame. Plus récemment, moi je ne parlerai pas des manifestations sur les retraites, mais plus récemment, les résultats et les conséquences ou ce qui s'est passé après les dernières législatives. Donc mon sentiment, c'est que la Ve République est à bout de souffle et ne répond même plus au seul impératif ou au seul avantage, si tant est que ce soit un avantage, à savoir la stabilité. Donc ma question, elle est simple. Donc mon commentaire, c'est oui, j'ai le sentiment que 2005 est un virage qui n'a fait que se poursuivre par la suite. Et ma question donc, c'est comment passé à la VIe République. Comment fait-on pour redonner le pouvoir au peuple qui est au moins en théorie, la définition de la démocratie.
Merci beaucoup, Olivier. Madame la constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina.
J'ai peur de décevoir un peu notre auditeur, étant donné que je ne suis pas sûre que la 6e République soit réellement ce qu'il attend dans la réponse à cette question « Je veux une nouvelle République ». Étant donné que la 6e République, dans les éléments en tout cas programmatiques qui sont donnés par les partis politiques en place, c'est une 4e République révisée ou une 5e République, voire même un peu plus autoritaire. Et je ne suis pas sûre que ce soit ça le mouvement du temps. À mon avis, on peut tout à fait faire de la 6e République en intégrant un peu de 4e République dans la 5e. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il l'a dit, le dogme de la majorité stable est aujourd'hui en train de s'effondrer, mais pourquoi pas en faire une chance. C'est-à-dire que si on change de culture politique, on arrive à faire finalement de ces majorités relatives quelque chose de profondément représentatif de l'opinion. On n'a pas besoin de changer de constitution. Et moi, je pense que c'est ça qu'a été le virage de 2005, c'est cette absence de représentativité de nos représentants. Donc si on y revient, proportionnel, fin de la responsabilité pénale des ministres, par une cour particulière, toutes ces questions de passe-droit, de manque de confiance, en fait on peut les faire en modifiant la 5e République et en la rendant en adéquation avec son temps. Et puis il y a des éléments de culture constitutionnelle et parlementaire qui reposent sur la responsabilité des gouvernants, et c'est ça qu'ils n'ont pas assumé en 2005. C'est ce virage-là de regagner la confiance.
Il a parlé des Gilets jaunes, notre auditeur Bruno Cotterêts. Est-ce que les Gilets jaunes sont nés en 2005 sur le non au référendum ?
C'est clair qu'on peut, on peut tracer quelques parallèles, c'est très clair. C'est-à-dire qu'il y a dans la crise des Gilets jaunes, très vite, effectivement, des références à 2005. Des gens qui disent c'est le déni de démocratie qui recommence. Et effectivement, l'idée de dire, au fond, que sont devenus les éléments du grand débat national, où sont les cahiers de doléances. On sait que le Premier ministre actuel, François Bayrou, a souhaité que ces cahiers de doléances soient mis à disposition du public, dans les archives départementales notamment, mais c'est vrai que ça, on retrouve effectivement quelque chose qui est un peu similaire, le sentiment d'une profonde déconnexion entre un monde politique qui est perçu comme complètement dans son monde à lui, complètement déconnecté, et non seulement complètement déconnecté, mais qui est perçu aussi comme, au fond, ne cherchant pas le bien public et l'intérêt du public. Donc là, on voit qu'effectivement, on peut tracer quelques parallèles. Après, c'est des choses complètement différentes. 2005, c'est un référendum.
C'est vrai, mais ce qu'il nous dit, notre auditeur, c'est qu'il y a eu des cahiers de doléances et qu'effectivement, comme vous dites, on n'a pas entendu les cahiers de doléances. Ce qu'il nous dit aussi, c'est il y a eu des conventions citoyennes. Je pense à la convention citoyenne sur le climat et puis le résultat de la convention citoyenne sur le climat, il n'en est pas resté grand-chose non plus. Quand vous parlez de représentativité tout à l'heure. Alors, la représentativité, c'est une chose, mais Thomas Legrand, pardon, je ne voulais pas vous interrompre, Bruno Cotterêts.
Juste un petit point, ça souligne à quel point il faut que le politique fasse beaucoup de pédagogie, rende des comptes. Parce que si on prend la convention sur le climat, il y a pas mal de choses, au fond, qui ont été mises en œuvre. Les gens qui ont suivi la convention disent c'est pas vrai qu'il n'y a rien qui a été mis en œuvre. Il y a un certain nombre de dispositions qui ont été mises en œuvre.
Oui, mais Par contre, c'est vrai. Comme Emmanuel Macron avait dit, tout.
Exactement. Tout dépend de la promesse qu'on fait avant. Ça dépend de la promesse qu'on fait avant.
En réalité, ce qui est assez amusant, c'est que tous ceux qui prônent souvent la 6e République ont aussi une culture très 5e République de ce qu'on appelle le fait majoritaire. C'était le mot de Michel Debray, le fait majoritaire. C'est-à-dire que ce que je représente politiquement, quand ça gagne les élections, doit tout faire. The winner takes all. En fait, on est dans une culture de l'affrontement, on l'a souvent dit. Il faudrait passer à une culture du compromis. Là, il faut peut-être poser la question à Madame Bézina sur la proportionnelle. Je pense, moi, mais je parle sous son contrôle, que la proportionnelle n'a pas comme vertu unique que de représenter un peu mieux tout le monde, mais de nous faire changer de culture, parce que pendant la campagne de la proportionnelle, chaque liste, chaque parti politique sait pertinemment qu'il n'aura pas la majorité absolue, il le sait, il ne peut pas dire « je vais tout gagner », et donc il doit parler de ce qu'il défend et ne pas trop attaquer ses voisins politiques pour pouvoir faire des compromis avec eux, pour pas que ce soit les autres qui fassent des compromis avec eux, et donc on rentre dans une culture politique. L'électeur, au moment des législatives, quand il y a une proportionnelle, il n'élit pas quelqu'un pour qu'il applique tout son programme, mais il élit quelqu'un pour que son programme soit la base d'une concertation. Ça change
toute la mentalité. Et donc, c'est une question un peu de philosophie politique. Est-ce que notre constitution reflète notre caractère national dont on dit qu'il est dans l'affrontement, la bagarre du Gaulois? Ou est-ce que notre constitution devrait justement calmer ces ardeurs-là et donc en instaurant la proportionnelle, et c'est pas une question de la constitution parce que ça peut être fait par une loi, mais par exemple, une question constitutionnelle, là je pose la question à notre constitutionnaliste, on pourrait dire que pour renverser un gouvernement, il faudrait pouvoir, une motion de censure par exemple, il faudrait pouvoir ne le faire, comme en Allemagne, que si on a une majorité de rechange. Et ça, ça obligerait chacun à parler avec ses voisins politiques.
Voilà, donc plan B, ça nous ramène aussi à notre histoire de 2005. Votre réponse, Anne-Charlène Bézina, et on retourne au standard.
Oui, je crois...
J'aurais dû téléphoner pour poser la question.
Mais c'est, fallait. C'est,
ça, on fait comme Paris. Si. Je crois en effet qu'il y a quelque chose dans la proportionnelle à rapprocher même de ce qu'on commente de 2005. C'est-à-dire qu'au fond, sur ce clivage entre les pro-européens et les moins pro-européens, la diversité que permet la proportionnelle, elle est plus représentative de ces questions et elle est plus représentative de l'opinion. Mais comme vous le dites, au fond, c'est même pas tant ça. C'est que la proportionnelle, à mon sens, permettrait que les 11 groupes que nous avons aujourd'hui à l'Assemblée nationale soient 11 groupes représentatifs et qui puissent être de ce fait aptes à travailler ensemble. Je regrette un peu que la période de l'été n'ait pas permis qu'on mette un peu moins la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que j'aurais aimé que la proportionnelle soit finalement le résultat d'une culture de la proportionnelle qu'on ait pu déjà commencer. Mmh. Or, aujourd'hui, on va mettre la proportionnelle avant d'avoir acquis la culture de la proportionnelle, c'est-à-dire une bonne discipline de parti. Et il faut évidemment espérer que les choses se fassent dans ce sens-là. Mais je crois que ça ne sert à rien de bloquer cette volonté, notamment parce que là encore, c'est une volonté populaire et c'est, pour être constitutionnel, et avoir pendant très longtemps une image de quelqu'un qui travaillait sur des vieux grimoires, l'idée que la page institutionnelle soit aujourd'hui devenue quelque chose qui suscite de l'intérêt dans l'opinion, et notamment cette proportionnelle, je pense qu'il faut prendre le coche.
Vous avez dit The Winner Takes All de Thomas Legrand à l'instant, donc à l'américaine. Justement, Roland, vous nous parlez de Jed Evans. Bonsoir Roland.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi, je voulais vous préciser en tout premier lieu que je suis un électeur de gauche. Tout ça pour vous dire que M. Trump et sa politique, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Et pourtant, j'ai été frappé par les propos du vice-président Vance à Munich lorsqu'il a dit en substance aux Européens « Vous les Européens, vous avez peur de vos propres peuples ». Et je trouve que c'est tout à fait exact. Depuis les années 90, les dirigeants européens se sont mis entre les mains d'une Union européenne et d'une Commission européenne qui est très axée sur le néolibéralisme, de plus en plus de libéralisme tout le temps. Et les peuples qui veulent se mettre en travers de ça, ben on a vu ce que ça a donné avec le référendum en 2005 en France, mais pas seulement, je crois savoir, si je me souviens bien, qu'au Danemark, en Irlande, on avait voté également et on avait voté mal et on a obligé les peuples à revoter. Donc finalement, cette Union européenne qui veut donner des leçons de démocratie à la terre entière, se faire elle-même reprendre de voler par un dirigeant dont on va dire qu'il est très proche de l'autoritarisme, pour ne pas dire plus, c'est pas brillant. Et juste pour vous dire à la fin, concernant la France, le regretté Jacques Julliard avait dit un jour dans un éditorial de Marianne que la France était une démocratie de basse intensité. J'ajouterai, depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, de très basse intensité.
Allez, merci. Vous avez plein de notes en bas de page, Roland.
Juste pour terminer par une note
très, très vite.
Bien qu'étant de gauche, je regrette de ne pas être suisse.
Écoutez, vous pouvez toujours prendre la nationalité suisse. Merci beaucoup, Roland. Juste pour une toute petite note de bas de page, effectivement, les Pays-Bas aussi avaient un référendum et ça s'est passé de la même manière. Les Irlandais, c'était encore plus drôle, si je puis me permettre, puisqu'ils ont voté en 2008, c'était non. Donc on leur a demandé de revoter, puis finalement, ils ont dit oui. Donc tant que vous ne votez pas pour la bonne réponse, on va continuer à vous faire voter. Je sais que vous devez partir, Bruno Cotterêts. Que ce soit vous qui répondiez à notre ami Roland, qui, avec cette remarque, donc, regardons-nous, nous aussi Européens, on a peur du peuple, est-ce qu'on a peur du peuple ?
Je ne suis pas sûr de le suivre dans cette expression. D'abord parce que nous avons le privilège de vivre dans des démocraties où on consulte beaucoup le peuple. Il y a énormément d'élections. Hein. Même certains disent qu'il y a trop d'élections, qu'on passe notre temps à voter. Donc il y a beaucoup d'élections. Depuis 2005, si on faisait le compte, on a eu les uns et les autres de multiples occasions de s'exprimer, de sanctionner même ceux qui ont fait le traité de Lisbonne le jour des élections. Certes, il n'y a pas eu de nouveau référendum sur la question européenne. Par contre, il y a eu des élections européennes, il y a eu des élections nationales, donc je ne le suivrai pas nécessairement sur l'idée que les démocraties européennes, nous avons peur du peuple. Par contre, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet qui est sur le fait de reparler de l'Europe et d'en faire un vrai objet de débat national. Emmanuel Macron, au fond, c'est un de ses messages principaux. Et on découvre, quand on regarde de près les questions européennes, que c'est plus mesuré, moins... effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'évolutions qui ont eu lieu en Europe depuis 2005, qui ont plutôt souvent été dans le sens français. Donc l'idée que la France a été privée de parole sur la question européenne me semble peut-être un peu excessive, mais je la comprends parce qu'elle se situe dans un propos plus large qui est le sentiment que la démocratie française ne va pas bien. Et notre auditeur a eu raison de dire que dans les classements internationaux de démocratie, la France n'est pas la mieux placée.
En même temps, c'est intéressant, notamment sur l'Europe. Il y a eu, en préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un sondage qui a été fait il y a 5 ans, donc 15 ans après Maastricht. On a posé la même question. Et à ce moment-là, le non était toujours majoritaire. Mais je me demandais ce que ce serait si on le refaisait maintenant, Thomas Legrand. Parce qu'entre-temps, il y a eu le Covid. Donc il y a eu aussi des choses à l'échelle de l'Union européenne qui nous ont appris beaucoup de choses. Et puis, il y a surtout eu l'Ukraine. Et on a aussi appris des choses collectivement dans l'Union européenne.
Il y a les États-Unis, il y a cette leçon de Teddy Vance qui, en fait, est un démocrate.
Et il y a les États-Unis en face.
Qui a été élu en mentant et avec des milliards. Donc, je ne pense pas que ça soit un exemple.
Donc, en fait, est-ce que l'accélération européenne de ces toutes dernières années, là, nous ferait, on fait un peu de la politique fiction, mais nous ferait bouleverser un point de vue comme celui-là et un vote comme celui-là, à votre avis ?
Peut-être, mais en tout cas, dans chaque pays, c'est plutôt, au moment des élections nationales, c'est plutôt ceux qui sont sceptiques et les eurosceptiques qui gagnent. Et toutes les avancées que l'Europe a pu nous fournir sont souvent mises au crédit. Le Covid, on dira, c'est le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, hein, plus que l'Europe. Donc, je crains que ça soit... Enfin, je crains... En tout cas, je pense que le résultat serait le même. Mais, encore une fois, le problème, c'est que le non ne dit pas oui à quelque chose. Oui. C'est un non qui est même radicalement divisé. Et notre précédent auditeur aurait voulu qu'on respecte le non. Il se dit de gauche. Le problème, c'est que la majorité de ce non était plutôt nationaliste et autoritaire. Donc, je ne suis pas sûr qu'il eût été ravi... qu'on respecte un nom qui ne voulait rien dire, en fait, mais qui disait quand même qu'une insatisfaction qu'il aurait fallu prendre en compte, ça c'est vrai.
Il nous reste juste une minute, Anne-Charlène Bézina.
Pour dire que ce mot peuple est le plus merveilleux et le plus difficile de la vie politique. C'est-à-dire que c'est... d'ailleurs, quand J.D. Vance en parle, je le renverrai à la lecture de We the People de Bruce Ackerman, qui est justement les fondamentaux de la démocratie américaine qui repose sur les droits et la diversité, ce qui est justement ce que J.D. Vance semble contredire et surtout combattre. Mais Peuple introuvable aussi de Rosan Vallon, où on se rend compte que c'est très difficile de représenter le peuple. Et en fait, je pense que c'est ça que l'Union européenne n'arrive plus vraiment à faire. C'est vrai qu'il faut revenir à la démocratie directe plus souvent, mais il faut aussi se dire que la représentation, elle est une forme de nécessité et qu'il n'y a pas, à mon avis, à opposer forcément les deux. Représenter le peuple dans un populisme, c'est tout aussi dangereux pour le peuple lui-même.
Vous voyez, il y a eu un isme, juste pour terminer. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci à tous les trois, et merci à tous pour vos nombreuses questions.